Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Nous pouvons dire que les trois piliers de la vie chrétienne sont la foi, l'amour et l'espérance. Dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous réfléchissons au sens de ces trois qualités. En nous penchant sur la première lettre de l'apôtre Paul, écrite à l'église de Thessalonique. Aujourd'hui, nous parlerons une dernière fois de ce que Paul appelle l'œuvre de la foi. Mais d'abord, Magali va lire le premier chapitre de cette lettre, et ensuite, André nous rejoindra pour nous faire part de ses réflexions.
De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père, et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir.
Merci Magali. André, bonjour et merci d'être de retour parmi nous.
Merci Yann et bonjour à tous. Résumons d'abord ce que nous avons appris jusqu'à présent. Lorsque Paul parle de l'œuvre de la foi, il ne parle pas de notre salut, car nos œuvres ne contribuent en rien aux bénédictions que Dieu déverse pour nous et qui reposent sur le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Dieu nous accorde ces bénédictions par grâce, et nous les saisissons par la foi. Ainsi, lorsque Paul nous parle de l'œuvre de la foi, il évoque plutôt ce que nous sommes amenés à faire, étant donné que nous exprimons, par la foi, notre loyauté et amour envers le Seigneur Jésus. Nous avons jusqu'à ce jour considéré deux œuvres de la foi. Voici la première. Les croyants à Thessalonique ont bien accueilli la parole de Dieu, et leur attitude en est un exemple. Elle nous appelle à notre tour à recevoir avec joie l'enseignement biblique. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous devons avoir soif de lui et nous appliquer à mettre en pratique tout ce qu'il nous enseigne. Et voici la deuxième œuvre de la foi. Nous savons que les croyants à Thessalonique ont abandonné leurs idoles pour se tourner vers le seul Dieu vivant et vrai. Leur témoignage de foi nous invite à faire de même, puisque Jésus est notre Seigneur. Nous devons rejeter toute influence idolâtre de nos vies.
Merci André pour ce résumé. Et aujourd'hui, nous allons considérer une troisième œuvre de la foi. Quelle est-elle?
Une fois de plus, je m'appuie sur le premier chapitre de cette première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et je vais me pencher sur le verset suivant, où Paul déclare « En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu se fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Cette troisième œuvre de la foi consiste à être un bon témoin de Jésus-Christ et à faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile autour de soi.
Dites-nous en davantage sur le témoignage des Thessaloniciens.
Il faut insister pour dire que la foi des Thessaloniciens était visible. Elle était vécue publiquement. Ils n'ont pas, pour reprendre les paroles de Jésus, mis leur lampe sous un seau. Ils n'ont pas cherché à vivre leur foi dans le secret, loin des regards de tous. De toute façon, dans une ville comme Thessalonique, cela aurait relevé de l'impossible.
Pourquoi ?
Parce que dans les villes grecques, tous vivaient très proches les uns des autres. Tous se savaient. Il était fort difficile d'avoir une vie privée. Ceci dit, et au vu de ce que nous avons déjà appris sur ces croyants, j'aimerais proposer le scénario suivant.
Je vous en prie.
Nous savons que ces croyants ont bien accueilli la parole. Ils ont pris au sérieux l'enseignement de l'apôtre Paul et ils ont cherché à le mettre en pratique. En réfléchissant sur ce qu'ils apprenaient, ils en ont conclu qu'ils devaient abandonner leurs idoles. J'ai expliqué la dernière fois que les cultes idolâtres étaient fortement imbriqués dans la vie politique, économique et sociale des villes grecques. Alors, celui qui se détournait de ses idoles était obligé d'effectuer un changement de vie tel qu'il se faisait remarquer de tous. Oui, il était impossible de renoncer à l'idolâtrie sans que personne ne le voie. La foi des Thessaloniciens et leur abandon des idoles ont eu un effet qui a bouleversé la ville. Quelques attroupements houleux se sont formés et certains ont intenté un procès contre la personne qui accueillait des chrétiens chez elle pour qu'ils s'y réunissent. Comme je l'ai dit, tout se savait et la démarche de ces croyants n'ont pas laissé la population indifférente. Cependant, malgré l'hostilité ambiante, ces croyants ont tenu ferme dans leur foi. Ils ont certainement dû rencontrer de nombreuses occasions durant lesquelles ils ont répondu aux questions que leurs voisins, collègues ou amis leur posaient. Les gens étaient perplexes et choqués. Et ces croyants ont eu des opportunités pour parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et expliquer les raisons pour lesquelles ils avaient mis leur foi en lui. Ensuite, les gens devaient parler entre eux de ce qu'ils avaient entendu. Parmi eux, il devait se trouver des gens de passage qui, de retour chez eux, ont dû tout raconter à leurs proches, collègues et amis. Ainsi, comme l'apôtre Paul en témoigne, la nouvelle de la foi des Thessaloniciens et le message de Christ se sont répandus dans les régions de la Macédoine et d'Achaïe, deux régions faisant partie de la Grèce. En obéissant à la parole de Christ et en l'annonçant pour expliquer leur changement de vie, les croyants des Thessaloniques se sont conduits en bons témoins fidèles. Et leur témoignage a retenti loin, au-delà de la ville, pour atteindre la campagne et d'autres villes avoisinantes.
Leur exemple représente-t-il un défi pour nous aujourd'hui ?
Oui, les chrétiens de tout âge et en tout lieu sont appelés à être de bons témoins de Jésus-Christ. Nous pouvons nous demander alors, les gens autour de nous savent-ils que nous sommes chrétiens ? Affichons-nous notre foi en Jésus de façon visible et publique ? L'autre question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Est-ce que notre foi produit des fruits dans notre vie? Autrement dit, est-ce que notre foi nous conduit à changer de vie? Est-ce que les gens peuvent remarquer ces changements? Remarquer que nous sommes différents ou que nous devenons de meilleures personnes? Les chrétiens à Thessalonique ont abandonné l'idolâtrie et cela s'est vu. C'est devenu un sujet de conversation dans les cafés et sur la place des marchés. De nos jours encore, dans certaines régions du monde, celle où celui qui affiche sa foi en Jésus doit renoncer au culte d'idolâtre, renoncer aussi à recourir à la divination, à la sorcellerie et à des activités semblables. Cependant, le renoncement à l'idolâtrie n'est pas la seule démarche nécessaire. Le chrétien est aussi appelé à renoncer à l'immoralité sexuelle et nous en parlerons davantage la prochaine fois. Le chrétien est également appelé à renoncer à la corruption et à la malhonnêteté, à la violence et à la vengeance aussi. On pourrait facilement rallonger cette liste, mais vous avez, je l'espère, compris le principe. Lorsque nous affichons notre foi en Jésus, nous devons aligner nos valeurs et notre conduite à sa volonté, et cette démarche produira des changements de vie, souvent des changements radicaux, des changements qui se remarquent.
Donc, si j'ai bien compris, un bon témoignage ne consiste pas uniquement à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais à vivre ce que nous annonçons. Autrement dit, notre conduite et notre comportement sont tout aussi importants que nos paroles.
C'est exact, Yann. Les deux sont indispensables, étroitement liés, et pour au moins deux raisons. D'abord, si les gens constatent que nous vivons autrement, que nous avons renoncé à certaines activités immorales, que nous sommes devenus différents en bien, cela peut les conduire à nous demander pourquoi. Ainsi, notre nouvelle façon de vivre peut susciter des occasions pour parler de Jésus-Christ. Citons à ce sujet les propos de l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 3 et au verset 15. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect. Pierre évoque une situation semblable à celle des Thessaloniciens. Il explique que celui qui affiche sa foi en Jésus rencontrera des occasions pour parler de lui et de ce fait, nous devons nous préparer, être prêts à répondre aux questions qui nous sont posées. Les motivations de ceux qui nous interrogent peuvent varier, mais nous devons leur répondre avec respect et douceur, même s'ils se montrent hostiles ou provocateurs.
Merci. Et quelle est la deuxième raison pour laquelle il est essentiel, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, que notre vie reflète la bonté, l'honnêteté?
C'est une question de crédibilité. Celui qui affirme être fidèle à Christ, mais qui n'est pas disposé à renoncer aux idoles de ce monde, vit en contradiction avec ce qu'il prêche. Il est incohérent de déclarer son allégeance à Christ sans accepter les changements de vie qui s'imposent. Il est incohérent de déclarer « Jésus est mon Seigneur » pour ensuite suivre d'autres dieux qui peuvent être une soi-disant divinité locale et traditionnelle ou la poursuite obsessionnelle de richesses ou encore de l'immoralité sexuelle. Non, il faut renoncer à ces faux dieux que nous servons pour nous soumettre à Jésus, le seul vrai Seigneur. Si nous vivons en contradiction avec ce que nous annonçons, les gens vont le remarquer et nous ne serons plus crédibles. Comment les gens croiront-ils en Jésus, le Seigneur, si nous ne vivons pas notre foi au quotidien? Non, un témoignage authentique doit se voir. Il ne repose pas sur des paroles seulement, mais sur un bon témoignage mené dans sa vie de tous les jours, et qui consiste à se soumettre à la volonté du Seigneur Jésus. Pour finir, les croyants de Thessalonique mettaient en pratique de façon exemplaire ces paroles de Jésus. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et l'éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Merci André pour toutes ces leçons importantes. La prochaine fois, nous commencerons à discuter du travail de l'amour dont faisaient preuve les Thessaloniciens. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.